pour une part essentielle, bien qu'il y ait aussi une distance de Spinoza à l'égard de Descartes, mais en tout cas c'est un cartésien au sens où c'est un pas de plus dans le rationalisme moderne, dans l'affirmation d'un rationalisme moderne. Et la singularité de Spinoza, c'est qu'il a été présenté aussi comme un philosophe juif, dans la mesure où il a grandi dans la communauté juive d'Amsterdam, il a eu une éducation traditionnelle, c'est un bibliste depuis l'enfance, et qu'il a rompu avec la communauté juive d'Amsterdam, avec le judaïsme orthodoxe traditionnel, qu'il a été excommunié.
C'est ça, oui. D'une façon assez violente.
Les textes de l'excommunication sont très violents, mais ce qui est intéressant, c'est que chez Spinoza, il est exclu de la communauté juive. Il est également, en quelque sorte, excommunié de la communauté des doctes du XVIIe siècle, qui mm-hmm. est une communauté, au fond, chrétienne, à l'époque. Et lui s'affirme en tant que philosophe. C'est ça, le nom qui qualifie Spinoza, c'est un philosophe. Mm-hmm. Alors, ce qui est intéressant, c'est en ça qu'on peut dire, non pas qu'il est théologien, mais il a écrit un livre, le Traité théologico-politique, dans lequel il analyse la Bible. Mm-hmm. Donc, il a eu une lecture de la Bible. Mmh. Ce qui est assez rare dans la tradition de la philosophie, d'avoir un philosophe comme ça qui a écrit sur la Bible. Mmh. L'intérêt de Spinoza aussi, c'est que dans l'histoire, il va se trouver que la question de son excommunication, qui est un fait historique en tant que tel, qui pour une part pourrait être anecdotique, mais qui va avoir une grande importance par sa dimension symbolique et par le fait que l'accusation de trahison va être ensuite reprise, et notamment au XXe siècle, et par des philosophes comme Hermann Cohen ou Léo Strauss ou Emmanuel Levinas, qui vont en quelque sorte reprendre à leur compte cette accusation de trahison et justifier l'excommunication. Et là, ce qui devient tout à fait intéressant et étonnant, c'est qu'ils reprennent une position qui était celle d'un obscurantisme théologique qui était à la fois juif et chrétien.
L'histoire du coup de couteau dans le manteau, c'est une histoire vraie ou c'est un mythe ?
C'est une histoire vraie, semble-t-il. Ce qui est intéressant à mes yeux, c'est sa dimension symbolique que Spinoza a utilisée en tant que tel, puisqu'il a gardé ce manteau troué. Le trou devenait le signe, le symbole de quelque chose. Et ce symbole, me semble-t-il, c'est la haine que suscite l'esprit libre qu'était Spinoza, et la haine que suscite un rationalisme émancipateur.
Oui, il faut peut-être, dans son temps, au XVIIe siècle, nous dire ce que c'était que la raison, que le rationalisme.
Alors, au XVIIe siècle, donc, ça c'est l'héritage de Descartes, le rationalisme c'est la rupture avec la théologie. C'est en ce sens-là, c'est-à-dire une liberté intellectuelle et une capacité rationnelle et de connaissance qui s'émancipe du joug ou de l'influence des églises, au pluriel, et donc du dogme. Et on va trouver chez Spinoza, dans le traité théologico-politique, finalement, en regard de Spinoza, qui lui est le philosophe comme esprit libre et comme affirmation d'une rationalité émancipatrice, il va poser deux figures antagoniques, qui sont d'une part le dogmatique et d'autre part le sceptique. Et ça, ce dispositif est très intéressant parce que je crois qu'il est très éclairant jusqu'à aujourd'hui.
On continue avec Yvan Segré et